Il est 7h.
On vient à l'hôpital pour se faire enlever la vésicule biliaire et on va en réanimation avec la Covid. Nous avons un devoir aujourd'hui d'obliger tous les hospitaliers à se faire vacciner.
À l'heure où de nouveaux confinements locaux pourraient être décidés en Conseil de défense, le Covid est devenu la première maladie nosocomiale. Un tiers seulement des soignants vaccinés, c'est notre dossier dans un instant. Comment la justice fait-elle face à la vague de plaintes parfois tardives dans la libération de la parole sur les violences sexuelles? Avant de recevoir Colline Berry, notre immersion dans ce journal auprès d'un parquet des mineurs. Et puis, quand une légende en rattrape une autre, en football, Cristiano Ronaldo a rejoint cette nuit le roi Pelé, rien que ça. Après ce journal, il nous rejoint l'éclairage éco Nicolas Barré avant le regard international de Vincent Hervouet. Bonjour Vincent.
Bonjour Mathieu, on va parler du Yémen qui n'existe plus. La guerre préoccupe Joe Biden, mais il hésite à s'en occuper.
L'édito sport de Virginie Fulpin et enfin nous retrouverons Stéphane Bern pour notre rendez-vous d'histoire. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. On a tous eu dans des cours de récréation, peut-être plus tard, des amours platoniques. C'est quand il ne se passe rien. Mais d'où ça vient? Je vais vous le dire dans un instant.
Très bon réveil à toutes et à tous. Vous écoutez Europe 1, il est 7h01.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 7h, c'est avec vous, Théo Manval. Bonjour Théo.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. On parlait ici même hier du coup d'accélérateur dans la vaccination. À l'heure où le gouvernement sonne la mobilisation générale, nous sommes de respecter le couvre-feu, reconfinera peut-être de nouveaux départements après le Conseil de défense ce matin. Les soignants à l'hôpital continuent de traîner des pieds. Bonjour Victor Dolande.
Bonjour.
Les remontées de terrain montrent toujours un taux trop faible de vaccination chez les blouses blanches.
Oui, avant d'avoir les résultats précis d'une étude de Santé publique France au niveau national, la tendance n'est pas très encourageante. Seuls 34% des soignants des hôpitaux de Paris se sont fait vacciner à ce jour. Nos frigos sont remplis de vaccins, c'est une catastrophe, me confie aussi un chef de service d'un hôpital marseillais. Antoine est aide-soignant dans un hôpital de la capitale. Autour de lui, aucun de ses collègues n'a voulu se faire vacciner.
Le principal argument, c'est le manque de recul par rapport au vaccin. Il faut comprendre que les hospitaliers sont à l'image de l'ensemble de la population. Ils ont les mêmes craintes.
Un argument totalement irrecevable pour de très nombreux spécialistes de santé publique qui rappellent que plus de 100 millions de personnes dans le monde ont déjà été vaccinées sans qu'on ait pu observer d'effets secondaires graves.
Et Victor, la conséquence directe de cette faible vaccination chez les soignants, c'est que de plus en plus de monde attrape le Covid à l'hôpital.
Oui, le Covid est même devenu la première maladie nosocomiale. Depuis le début de l'épidémie, 44 000 personnes ont contracté le virus à l'hôpital. Et dans un tiers des cas, c'est un personnel de santé qui est à l'origine de la contamination. Pour François Chaste, président honoraire de l'Académie de pharmacie, cette situation ne peut plus durer.
On vient à l'hôpital pour se faire enlever la vésicule biliaire et on va en réanimation avec la Covid. C'est pas tout à fait normal. Ce vaccin est efficace, il est bien toléré. Donc nous avons un devoir aujourd'hui, c'est non pas d'inciter, mais d'obliger tous les hospitaliers, tous les soignants, mais les médecins en ville aussi bien sûr, à se faire vacciner parce que c'est le seul moyen de réduire, voire d'éradiquer la maladie en quelques mois.
Et il est loin d'être le seul à demander au gouvernement de rendre obligatoire la vaccination pour les soignants, avec un argument qu'ils répètent tous. Quand ils sont recrutés, les personnels de santé ne se posent jamais la question de l'obligation de vaccination contre la diphtérie, le tétanos, la polio, le BCG et l'hépatite B. Il ne faut donc plus se poser la question pour les vaccins contre le Covid, estime-t-il.
Voilà, le Covid, première maladie attrapée aujourd'hui à l'hôpital, transmise par un soignant dans un tiers des cas. Merci pour ce dossier, signé Victor Dolande.
Dynamique radicalement différente aux États-Unis, où le Texas va lever l'obligation de porter le masque et rouvrir tous ses commerces.
Et le président Joe Biden l'affirme. Nous aurons suffisamment de vaccins pour tous les adultes d'ici la fin du mois de mai. Il tablait jusqu'ici sur la fin juillet, alors qu'en Afrique, l'arrivée de vaccins financiers par l'OMS s'accélère. Le Nigeria, le Kenya, l'Angola et la RDC ont reçu leur première dose gratuitement grâce au dispositif COVAX.
7h05 sur Europe 1. La réforme des retraites n'est pas à l'agenda social des prochaines semaines. C'est ce que dit ce matin la ministre du Travail. Le contexte actuel, estime Elisabeth Borne, ne se prête pas à la relancer.
Tandis que volet judiciaire, l'ancien président Nicolas Sarkozy poursuit, lui, sa riposte. Contrairement à la pose qu'il adopte en première page du Figaro, il n'a pas l'intention de rester les bras croisés après sa condamnation pour corruption. Interview ce soir aux 20h de TF1 et donc dès ce matin dans le Figaro, Hélène Terzian, avec un ton déterminé.
Oui, officiellement, Nicolas Sarkozy n'est pas un homme en colère. Pourtant, cette colère, on la sent déborder de ses déclarations dans le Figaro. « Je ne peux accepter d'avoir été condamné pour ce que je n'ai pas fait », dit l'ancien président. Il dénonce une injustice profonde, choquante et n'exclut pas de mener le combat jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. Nicolas Sarkozy égrène ses arguments, cite le jugement, un document truffé d'incohérences, des bribes de conversations téléphoniques sorties de leur contexte. Il s'interroge sur la partialité de certains magistrats. Son innocence, il la clame aussi dans l'affaire Big Malion sur ses comptes de campagne de 2012, pour laquelle il sera jugé dans 15 jours. Et pour ce qui est de son avenir politique, il maintient qu'il ne sera pas candidat à la présidentielle, mais il prendra bien part à la campagne. Je ferai mon devoir en disant ce que je pense.
Hélène Terzian du service politique d'Europe 1.
La justice, toujours. Et ce sera l'un des événements sur Europe 1 ce matin. Colin Berry, mon invité en direct. Tout à l'heure à 7h40.
Elle accuse, vous le savez, son père, l'acteur Richard Berry, de fait d'inceste lorsqu'elle était enfant. Et alors que la parole se libère, que les plaintes, parfois tardives, sont de plus en plus nombreuses, on a choisi sur Europe 1 ce matin de se plonger dans le quotidien des magistrats qui traitent ces dossiers. Le ministère de la Justice leur a demandé la semaine dernière d'ouvrir des enquêtes pour toutes les plaintes de violences sexuelles sur mineurs, y compris lorsque les faits sont prescrits.
Pour apporter une réponse à cette parole des victimes, entendre aussi les mises en cause. Mais dans les faits, ces magistrats sont bien souvent submergés et doivent réagir dans l'urgence, comme ceux que vous avez suivis au tribunal de Bobigny, Marion Dubreuil.
Oui, sur l'ordinateur de permanence du parquet des mineurs, les signalements adressés par mail s'accumulent au fil de la journée. Maltraitance, agression sexuelle, viol.
S'il y a urgence à aller récupérer l'enfant, souvent c'est à la sortie de l'école avant qu'il rentre chez lui.
C'est le quotidien de Julie Morel, vice-procureure, et des 9 magistrats qui gèrent actuellement 500 enquêtes ouvertes pour violences sexuelles sur mineurs, dont une poignée de plaintes d'adultes pour des faits subis dans l'enfance.
Il va falloir analyser cette plainte pour savoir si les faits sont prescrit ou pas prescrit, par rapport à la date des faits, de l'âge de la personne, en fonction des différentes lois successives. Même si dès le départ on pense que les faits vont être prescrits, on déroule l'enquête de la même manière. Ça permet d'être reconnu aussi en tant que victime, parce qu'il y a cette enquête qui pourra aboutir à dire que les faits ont été commis, mais que juridiquement, on ne pourra pas poursuivre du fait de la prescription.
La moitié des dossiers de violences sexuelles sur mineurs sont classés sans suite, le plus souvent parce que l'infraction n'est pas suffisamment caractérisée, mais c'est impossible de recevoir, comme le voudrait le garde des Sceaux, toutes les victimes. Alors Fabienne Klein-Donati, procureure de la République de Bobigny, accompagne les avis administratifs de courriers individualisés.
C'est à la fois les moyens qu'on s'est donnés pour traiter mieux ces enquêtes-là et ces victimes-là, puis après l'autre facette, c'est les décisions qui sont rendues.
Le parquet de Bobigny fait de plus en plus appel à l'association SOS Victimes 93 pour qu'elle accompagne les victimes, notamment lorsqu'il n'y a plus de recours judiciaire.
Immersion auprès du parquet des mineurs à Bobigny, signé Marion Dubreuil.
7h08 sur Europe 1. Attention si vous vous apprêtez à prendre la voiture dans le nord de la France.
Circulation alternée en Île-de-France pour cause de pollution de l'air. Seuls les véhicules critères 0, 1 et 2 sont autorisés dans le périmètre de l'autoroute A86. Vitesse réduite de 20 km/h aussi dans le nord, le Pas-de-Calais, l'Oise et la Somme. Alors qu'on connaîtra aujourd'hui les innovations primées par la sécurité routière, c'est un prix annuel qui récompensera 6 initiatives, parmi lesquelles peut-être Aude-le-Roi, un dispositif appelé Sentinelle que vous nous présentez pour sécuriser les pilotes de deux roues.
Oui, lors du trajet, 2 caméras embarquées, pas plus grosses qu'une capsule de café, enregistrent les abords du deux roues, des vidéos transmises ensuite par une antenne, elle aussi miniaturisée, des images indispensables, explique Thomas Bilger, cofondateur de la société SentiDrive, en cas de litige lors d'un accident et aussi bien sûr en cas de chute.
Le boîtier va enregistrer les 8 secondes avant la chute et 8 secondes après la chute. Ces deux fichiers vont être transférés directement par 4G sur notre serveur sécurisé, ce qui nous permettra d'avoir une preuve quelle que soit la situation.
Autre innovation, cette fois pour sécuriser les piétons, vous savez, ceux qui traversent le nez sur leur téléphone. Ce dernier reçoit une notification, une vibration et une alarme en cas de danger grâce à des ultrasons envoyés pile au bon moment par un feu tricolore ou par un bus. Emmanuel Riss est le fondateur de la start-up Copsonic.
Sur les bus de la RATP, ce n'est que lorsqu'ils appuient sur le klaxon que l'on émet l'ultrason, qui peut porter à 80 mètres de distance lorsque le véhicule roule à 50 km/h.
Ce dispositif est testé depuis 3 mois, notamment aux abords de collèges d'Île-de-France, et les ados le trouvent, paraît-il, utile et très fun.
Aude Leroy, c'était un geste d'apaisement recommandé par l'historien Benjamin Stora dans son récent rapport. Emmanuel Macron reconnaît la torture et l'assassinat par l'armée française du militant Ali Boumendjel en 1957 pendant la guerre d'Algérie. La mort de cet avocat nationaliste avait été maquillée en suicide. Le chef de l'État a reçu ses petits-enfants hier soir. En Birmanie, l'armée continue de tirer sur la foule qui dénonce le coup d'État. 3 nouveaux blessés hier. Le Conseil de sécurité de l'ONU pourrait se réunir dans 2 jours.
Et on termine avec les sports. Écoutez bien.
Campo aperto per Ronaldo, Ronaldo al limite, Ronaldo carica al sinistro.
Ce que vous entendez, c'est une légende en marche qui en rattrape une autre. Cristiano Ronaldo rejoint Pelé, 767e but hier soir en match officiel lors de la victoire de son équipe, la Juventus Turin contre la Spezia. 767 en match officiel, c'est quand même pas rien sur les terrains français. 28e journée de Ligue 1 ce soir à l'affiche notamment Rennes-Lyon à 19h et le choc Lille-Marseille à 21h.
Merci beaucoup Théo Manval, c'était le journal de 7h sur Europe 1.